Dynamo vous dit, Dynamo vous lit. Bonjour, bonsoir, belle nuit, bonne matinée. Nous nous retrouvons une fois de plus sur les ondes de Radio Dynamo. C'est pour nous l'occasion de vous faire découvrir les nuits de la lecture. Du 21 au 25 janvier 2026, le Centre National du Livre et Radio Dynamo vous invite à écouter les lectures offertes par nos passionnés. Public, vous êtes invité à vous réunir à l'occasion de milliers d'événements physiques, numériques ou audio, comme sur Radio Dynamo. Le thème de cette année, ville et campagne. Si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur nuit, au pluriel, de la lecture.fr.
Bonsoir. Derrière le micro, Sylviane Vandemortel, écrivaine et biographe. J'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre d'Italo Calvino, qui est un écrivain et essayiste italien, qui est décédé en 1985. Il a vécu donc l'Italie sous l'Italie fasciste, et il a grandi dans un milieu scientifique antifasciste justement et résolument laïque. Très vite, il est parti dans la littérature, à écrire de la littérature populaire et particulièrement dans l'univers de la fable. Il a été membre de l'Oulipo, pour ceux à qui cela peut donner une idée. Il est souvent d'ailleurs présenté comme un fabuliste plein d'humour. Donc dans son roman, qui s'appelle Monsieur Palomar, il a écrit celui-ci avec une idée toute simple, c'était de transformer l'observation d'un détail en un récit descriptif touchant aux aspects multiformes de l'univers. La terrasse est à deux niveaux, une plateforme, où Belvédère domine la pagaille des toits sur lesquels Monsieur Palomar glisse un regard d'oiseau. Il essaye de penser le monde tel qu'il est vu par les volatiles. Contrairement à lui, les oiseaux ont le vide qui s'ouvre sous eux. Mais peut-être ne regardent-ils jamais en bas. Ne voient-ils que sur les côtés planant obliquement sur leurs ailes. Si bien que leur regard, comme le sien, où qu'ils se dirigent, ne rencontre que des toits plus ou moins hauts, des constructions plus ou moins élevées, mais tellement serrées qu'elles les empêchent de descendre trop bas. La forme véritable de la ville est dans cette montagne russe de toits, de tuiles vieilles et neuves, romaines ou plates, de cheminées fines, trapues, de pergolas de paille et de marquises en fibro-ciment ondulé, de parapets, balustrades, colonnettes supportant des vases, réservoirs d'eau en tôle, vasistas, chiens ainsi vitrés, et sur toute chose se dresse la mâture des antennes de télévision, droites ou tordues, émaillées ou rouillées, selon les modèles des générations successives, diversement ramifiées et cornues et à réflecteurs, mais toutes maigres comme des squelettes et inquiétantes comme des totems. Séparées par des golfes de vide irréguliers et échancrés, se font face des terrasses prolétariennes avec leurs cordes à linge et leurs tomates plantées dans des bassines de zinc, des tomates résidentielles avec leurs plantes grimpant en espalier sur des treillis en bois, leurs meubles de jardin en fonte peintes en blanc, leurs auvents à store enroulable, des clochers au beffroi carillonnant à toute volée, des frontons de bâtiments publics de face et de profil, des appartements sous les combles, des surélévations abusives et impunies, des échafaudages en tubes métalliques de construction en cours ou laissés en plan, des baies vitrées à tenture et des lucarnes de cabinet. Des murs couleur ocre ou terre de sienne, des murs couleur moisissure dont les fissures accueillent des touffes d'herbe qui déversent leur feuillage pendillant, des colonnes d'ascenseur, des tours aux fenêtres bifores ou trifores, des flèches d'église et leurs madones, des statues de chevaux et quadriges, de belles demeures déchues devenues des taudis rénovés en garçonnières, et des coupelles dont les rondeurs se découpent sur le ciel comme pour confirmer l'essence féminine, plantureuse de la ville. Coupoles blanches ou roses ou violettes, selon l'heure et la lumière, veinées de nervures, culminant par des lanternes surmontées d'autres coupoles plus petites. Rien de tout cela ne peut être vu de ceux qui déplacent leurs pieds et leurs roues sur les pavés de la ville. Et inversement, de là-haut, on a l'impression que c'est là la véritable croûte terrestre, inégale mais compacte, bien que sillonnée de fractures dont on ne sait la profondeur, crevasses ou puits ou cratères, dont les bords vus en perspective paraissent aussi serrés que les écailles d'une pomme de pin. Et l'on ne songe même pas à se demander ce qu'elles cachent dans leur tréfonds, car ce que l'on voit en surface est déjà d'une telle abondance, d'une telle richesse et variété, que cela suffit largement à saturer l'esprit d'informations et de significations. Ainsi résonnent les oiseaux. Du moins, ainsi résonne, s'imaginant oiseau, Monsieur Palomar. Ce n'est qu'après avoir connu la surface des choses, conclut-il, que l'on peut se lancer à la recherche de ce qu'il y a au-dessous. Mais la surface des choses est inépuisable. Voilà, c'est toute une série de petits textes comme ça qui sont dans ce recueil qui s'appelle Monsieur Palomar. Et Monsieur Palomar va au zoo, Monsieur Palomar va faire ses courses. Il y a vraiment des descriptions qui partent de faits de petits riens et qui sont extrapolées dans une espèce d'utopie humaniste très 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 drôle assez souvent. Là, c'est là.